talmudique. Dimanche dernier, je prenais le train pour Paris dans une petite gare de province. Dans la salle d'attente, il y avait une petite machine que j'avais déjà vue dans d'autres endroits publics, mais dont je n'avais pas encore testé l'usage. Pas une machine pour prendre un ticket pour faire la queue à tel ou tel guichet. Pas une machine à café, à chips ou à bonbons ou quelque chose de comparable. Pas non plus une machine pour obtenir des étiquettes à apposer sur ses bagages. Non, rien de tout cela. C'était une machine à distribuer des histoires. Choisissez d'appuyer sur l'un des trois boutons et l'appareil vous offre, sous forme de rouleau, des contes, des poèmes et des nouvelles à lire d'un trait en une, trois ou cinq minutes. Je tentais ma chance. Un conte à lire en une minute. C'était parfait pour commencer. L'histoire était très prenante et bien écrite. Je m'en offris une seconde, puis une troisième, et c'est comme cela que j'ai raté mon train. Si je rapporte cette anecdote, c'est parce qu'elle m'a rappelé à quel point les êtres humains, en général, sont fascinés par les histoires, et plus encore ont besoin d'histoires. Et cela depuis la nuit des temps, de jour en jour, de nuit en nuit, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. J'aime me souvenir de ce passage du livre de la création, le Sefer Yetzira, que je cite souvent. Le monde a été créé par le livre, les nombres et les histoires. Certaines personnes savent non seulement les raconter, mais les écrire. Ce sont les écrivains, des êtres particuliers qui sentent le monde et les humains avec une acuité et une sensibilité particulière, qui savent rendre vivants des lieux, des situations, des sentiments, ceux des autres, mais aussi les leurs. Ils racontent et se racontent. Dans ce cas-là, leurs souvenirs sont leurs meilleurs compagnons. Mais il n'est pas facile de se souvenir. La boîte à souvenirs est comme un petit animal qu'il faut apprivoiser, et cela demande de la patience et du temps. Un temps qu'il n'est pas toujours possible de prendre, ou que l'on ne sait pas ou plus prendre, car très souvent, c'est nous qui sommes pris par le temps. Alors, les souvenirs attendent et patientent, mais je ne crois pas me tromper en disant aussi qu'ils s'impatientent. Alors, un jour, ils décident de ne plus rester dans la boîte et ils viennent vous chercher, vous tirer par la manche et vous mettre un crayon dans la main et vous commencez à écrire. Et vous découvrez que s'il n'est pas facile d'écrire, c'est cependant un exercice joyeux et jubilatoire, magique en quelque sorte. Et vous pensez à Proust qui décrit ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. Et en lisant certains livres, on sait que les souvenirs sont heureux d'avoir pu sortir de leur boîte. Parce que ce que l'on ressent en les découvrant, c'est une véritable joie, une danse de l'esprit, et aussi du temps, farandole du présent qui donne la main au passé, celui de l'écrivain, mais aussi le nôtre, comme si par enchantement, en ouvrant la porte de ses souvenirs, c'est un peu la porte des nôtres que l'écrivain en trouve aussi. Et l'on ressent alors une forme de gratitude profonde pour le présent que l'on reçoit. C'est cette gratitude que j'aimerais formuler après avoir lu un livre qui, je crois, en nous offrant des bouts d'existence, permet à la vie d'être plus belle et plus intense. Aldo Naori, bonjour.
Bonjour.
Aldo Naori, vous excuserez, j'espère, mon enthousiasme un peu lyrique qui traduit ce que j'ai ressenti en lisant votre livre.
Je suis sensible, très sensible.
Qui porte justement ce titre « Des bouts d'existence » dans lequel non seulement vous racontez vos souvenirs, une partie de vos souvenirs parce que l'on attend déjà la suite, mais aussi où vous théorisez la question du souvenir. Un style somme toute très talmudique où se côtoient dans un équilibre parfait la théorie et la pratique, la halakha et la haggadah du souvenir, des termes chers à la fois à Bialik et à Walter Benjamin. Pourquoi ce choix, Aldo Naori ?
C'est pas un choix, c'est une réponse que j'ai faite à une demande de mes enfants. Et cette demande m'a d'autant plus étonné que j'ai écrit il y a déjà plus de 20 ans l'histoire de ma famille dans un très gros volume que j'ai fait paraître de façon privée pour le distribuer à ma descendance. Et là, on m'a demandé d'écrire ces souvenirs. J'ai mis 2 ans à accepter de le faire, mais la demande était tellement attendrissante que je n'ai pas pu refuser. Et donc, je me suis lancé en produisant des flashs sur mon parcours existentiel parce que, spontanément, je répugne à l'autobiographie et je dis que je ne vois pas pourquoi je raconterai ma vie. La vie de chacun est tellement passionnante, je vois pas pourquoi la mienne le serait plus. Et donc, ça a donné lieu à cela. Mais avant même d'entamer les souvenirs que j'allais exposer, j'ai essayé de faire part au lecteur qu'un souvenir n'est jamais qu'un souvenir écran, comme nous l'enseigne la psychanalyse. C'est-à-dire, pour donner une image, c'est un couvercle qui est posé sur une marmite qui contient une émotion laquelle, s'il n'y avait pas de couvercle, nous rendrait la vie impossible. Donc, nous passons notre vie à être émus, à collectionner depuis tout notre petit âge des émotions. Ces émotions-là sont inconvenantes par rapport au lien social que nous avons à établir, et nous les refoulons. Nous mettons ça au fond, sous notre surface, et par-dessus, nous mettons un couvercle qui est le souvenir, qui est l'écran destiné à laisser les choses enfouies, c'est-à-dire refoulées. Et nous éprouvons une frustration. Et cette frustration, multipliée par un très grand nombre, finit par nous donner plus ou moins un certain malaise. Alors évidemment, les émotions sont enfouies plus ou moins profondément. Et puis quand nous grandissons, quand nous avons fini d'accumuler comme ça, eh bien, nous avons le moyen de pouvoir lever ces refoulés, c'est-à-dire permettre à ces émotions de disparaître et de diminuer du coup la pression de la frustration. Et cela nous est donné par la culture, simplement par la rencontre avec les textes, les tableaux, la musique, toutes sortes d'éléments qui justement viennent mettre en nous des émotions qui rentrent en résonance avec celles que nous avons enfouies. Donc nous les ressortons. Et c'est comme ça que nous ne sommes pas les mêmes entre 10 ans et 15 ans, n'est pas les mêmes entre 15 et 20 ans, entre 20 et 25 ans, et que nous passons en définitive le processus de maturation. C'est un processus dans lequel nous mettons, en quelque sorte, nous levons le maximum possible de refouler. Maintenant, à l'intérieur de ce que la culture apporte, il y a quelque chose de très particulier qui est le conte. Et le conte a ceci de tout à fait spécifique, c'est que le conte, par rapport à l'écriture ou par rapport à la musique ou par rapport au reste, joue avec l'angoisse. Et le conteur joue avec son angoisse et avec l'angoisse de l'auditeur. Et c'est dans cet échange, dans la dynamique de l'angoisse, que quelque chose intervient qui va encore plus faire d'effet dans la levée des refoulés. Or, comme j'avais l'intention de raconter des souvenirs, j'ai décidé de produire des contes, c'est-à-dire de ne jamais rien écrire qui ne soit pas sous la forme d'un conte. Évidemment, l'écriture du conte par rapport à la narration a ceci de particulier, c'est que celui qui écrit des contes est seul avec sa propre angoisse, et il faut qu'il imagine l'angoisse de l'autre. Et il y a là tout un art. Mais cet art-là ne m'est pas inconnu parce que j'ai été élevé dans le conte, dans la mesure, si vous voulez, où j'avais une mère qui était une grande conteuse.
Alors on va en parler. Je rappelle, même si l'on ne vous présente plus, que vous êtes pédiatre avec une formation psychanalytique et auteur d'une œuvre très importante dans laquelle la dimension du récit a toujours été présente par le biais des histoires de cas que vous avez présentées. Le présent ouvrage, dans lequel vous nous livrez vos souvenirs, est d'une immense richesse, et je laisse les lecteurs en découvrir toute la saveur. Je voudrais que nous nous arrêtions sur quelques points, le temps de deux émissions, cette semaine et la semaine prochaine. Le premier point est celui de votre prime enfance en Libye, où vous naissez en 1937, une enfance à Benghazi, marquée tout d'abord par un polyglottisme qui vous a profondément marqué jusqu'à aujourd'hui, Aldo Naouri.
Bien entendu, puisque de toutes les façons, j'arrive tout petit dans une famille qui est dans un grand malheur, parce que mon père est décédé 2 mois avant ma naissance. Donc ce grand malheur fait que ça accroît la sensibilité de chacun. Et j'ai un frère qui a 17 ans de plus que moi, un autre qui en a 12, un troisième qui en a 14, qui en a 8, et des sœurs qui vont donc s'étager aussi. Je suis le 10e enfant que ma mère a mis au monde, et nous sommes 7 vivants. Et évidemment, mes frères parlent italien, que j'entends mais sans rien y comprendre. J'accède au langage dans le judéo-libyen de ma mère, et que parlent aussi mes frères. Et ces sons, qui sont totalement différents, vont me frapper et m'interroger à telle enseigne que je passerai ensuite des années à essayer de comprendre ce que j'avais pu entendre et comme ça mémoriser. Eh bien, notre famille qui était là avait comme particularité, outre la misère dans laquelle elle était, que nous étions de nationalité française. En 1942, Mussolini décide, la Libye était italienne, de ne pas garder sur son territoire des ressortissants des puissances avec lesquelles il était en conflit, en guerre. Donc, comme nous étions français, il nous a chassés vers la France la plus proche qui était l'Algérie. L'amusant, c'est que nous étions français depuis 1850, ce que j'apprendrai à l'âge de 18 ans, quand je mettrai le nez dans cette histoire, c'est-à-dire que nous n'étions pas français par le décret Crémieux, on l'était déjà avant. Et donc, j'ai pu reconstituer le parcours. Mon arrière-grand-père, qui était rabbin à 19 ans, marié à une femme de 14 ans qui était née à Jérusalem, a décidé de repartir vivre en Palestine. Et sur le chemin, il est arrivé en Libye. Et là, il a vu que le judaïsme libyen était vraiment tout à fait déficient. Et sa mitzvah a été plus importante de remettre le judaïsme libyen en place, de façon à ce que c'était plus important que d'aller faire la mitzvah de retour en Palestine. Et donc, il y a eu la descendance. Mais nous étions français, coupés totalement de la France. Mais donc, quand nous sommes arrivés en Algérie, là encore une fois, ça a été la confrontation avec encore deux langues différentes, c'est-à-dire l'arabe algérien d'une part, qui était différent du judéo-libyen que nous parlions, et le français que nous ne connaissions absolument pas, dont nous ne savions rien. Eh bien, ces sons tellement différents ont marqué mon oreille à telle enseigne que précisément, je reste extrêmement convaincu. Mais et par expérience, que la langue est un code, et un code qui signifie bien plus que éventuellement le sens qui lui est donné. Et évidemment, quand je me mettrai à ensuite aller au Midrash et puis avoir l'approche de l'hébreu, que je ne parle pas, mais dont je sais des bribes, l'hébreu a été pour moi une langue extraordinaire, qui me reste encore très profondément. Bon, pourquoi ? Parce que c'est une langue dont les phonèmes sont les mêmes qu'en arabe, sauf que je n'ai pas besoin de comprendre. L'hébreu, c'est la langue du repos.
La langue du Shabbat. Alors, ce polyglottisme, vous le rattachez fortement à la figure maternelle, un personnage dont de nombreux écrivains auraient pu faire l'héroïne de leur roman. Vous la décrivez, entre autres, comme la reine des aphorismes, Aldo Nauri.
Absolument. Elle ne parlait que par aphorisme. Et j'en ai produit un certain nombre dans cet ouvrage pour montrer ce qu'il en était. Et pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que, je suis désolé de donner ce détail, mais il y a à peine 3 ans, j'ai fait une découverte immense qui m'a bouleversé. C'était que jusque-là, je pensais que ma mère était une juive libyenne. Et j'ai fini par comprendre il y a 3 ans, parce que j'ai rencontré une jeune femme libyenne avec laquelle j'ai beaucoup échangé. J'ai compris que ma mère était une libyenne juive, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, cette jeune femme m'a expliqué que, de toutes les façons, les femmes en Libye, n'ayant pas droit à la parole, ont fabriqué toute une série d'aphorismes pour, en quelque sorte, constituer la sagesse des nations. Et ces aphorismes-là sont tout à fait extraordinaires parce qu'ils sont extrêmement larges et très... Bon, j'en ai beaucoup, beaucoup fourni. Mais il y a un principe qui... Il y en a un, c'est marrant, je ne l'ai pas fourni, celui-là, mais qui est très important, c'est... Un aphorisme qui dit « Clou, pourquoi t'enfonces-tu dans le mur ?» Il demande au marteau qui me frappe. Ce principe de causalité va mettre en définitive dans la mentalité des gens de cette civilisation quelque chose qui ressemble beaucoup à la paranoïa. Mais, vous savez, Freud avait dit « J'ai réussi là où le paranoïaque a échoué. » C'est-à-dire qu'il donnait au paranoïaque, en quelque sorte, un certain statut. Eh bien, ces aphorismes-là constituent la sagesse que les femmes disaient tout le temps. C'est-à-dire, on disait, si tu n'as pas ce que tu aimes, aime ce que tu as. Le principe de réalité, vous voyez. Si tu en vois deux qui s'entendent, dis-toi qu'il y en a un qui supporte beaucoup. C'est-à-dire, en définitive, pour s'entendre, il faut faire des concessions, etc. etc. Tout cela est énorme. Et évidemment, c'était un principe d'éducation. Et j'ai eu une mère éducatrice tout à fait remarquable à cet égard. Et elle était éducatrice pour tout le monde. Alors évidemment, c'est un personnage dont j'aurais pu faire. Mais d'ailleurs, j'ai commencé à écrire un livre sur elle, mais j'ai arrêté. Je veux dire que, bon, elle mérite largement. Elle aurait mérité l'écriture de livres, tellement il y a eu de choses importantes. Mais c'était une conteuse, surtout.
Alors, j'aimerais qu'on entende quelques aphorismes en arabe, parce que là, vous les avez dit... En français, mais en arabe, il y a une saveur particulière. En judéo-libyen, ou en libyen juif, comme vous dites.
En libyen juif. Zouz ma'ashrin il kid ala wahd. 230, il y en a un qui supporte beaucoup. Voilà, par exemple. Ou alors, Afrit kassar babelbit.
Oui, alors redites-le tranquillement.
Afrit kassar babelbit. Le diable a cassé la porte de la chambre. Et ça, c'était quelque chose que j'avais entendu et qui m'avait beaucoup frappé parce que j'avais un frère qui habitait une petite chambre et le bas de la porte était cassé. Je me demandais si c'était lui le diable. Mais si vous voulez, quand il m'arrive de dire, dans l'exercice de ma profession, que l'âge majeur de la métaphysique, c'est la petite enfance, je le dis par expérience. Parce que la quantité phénoménale de questions que j'ai pu me poser dans ce tout petit âge, je l'ai encore en tête, vous voyez. Et on n'imagine pas que des individus puissent avoir des souvenirs de 2 ans, 3 ans, etc. Moi, j'en ai plein, vous voyez. Et je les restituais régulièrement. Et ma mère me disait, mais c'est pas possible que tu avais tel âge, etc. Bon, ça fait partie des choses qui... Je me demande si c'est pas précisément l'atmosphère dans laquelle je suis né, qui était donc une atmosphère très épaisse de deuil, et dont j'ai eu tous les détails, mais alors... à devenir fou, tellement il y avait de choses qui se passaient, qui m'a rendu particulièrement sensible et qui a fait que ces émotions qui m'assaillaient, je n'avais pas d'autre moyen de m'y soustraire que de les mémoriser en mettant justement un souvenir dessus. C'est-à-dire les émotions, je calais un couvercle à chaque fois.
جاتن العصا ضربت الكلبة اللي قد متخطوص دي كالت الجدي دي شرى لي بابا زوزة فلوس
واحد الجدي واحد الجدي دي شرى لي بابا زوزة فلوس
خوريش مشاحته بمدته قوريش نحسته زدني زي قوريش حب وشعر وشخبي
فكنا ومعاي ليا ويسبق ويبشرنا بس خد داك الزور اللي كشف بريوحاي وحده في الدوام يا ربي شمعون وعليك السلام.
Nous venons d'entendre, Aldo Naouri, la voix de votre maman et celle de votre grand frère dans ce judéo-arabe dont vous nous avez parlé, un dialecte parmi les autres bouts de langue, pourrait-on dire, qui accompagne ces bouts d'existence que vous comptez dans votre livre, judéo-arabe, qui fut aussi la langue qui vous a permis de découvrir les mystères de Paris, le comte de Monte Cristo et les mille et une nuits que votre mère vous racontait, une formidable transmission qui passe aussi par votre père et par la traduction. C'est là un bout d'existence qui vous a beaucoup marqué et qui vous font découvrir des pans entiers de la culture judéo-arabe complètement oubliés. Aldo Naouri, et d'abord quelques mots sur ce que nous venons d'entendre. Je vous vois très ému.
Oui, mon frère aîné avait un don. Il chantait très juste des chansons qu'il avait chantées quand il était en Libye dans un trio qui était à côté de la maison, qu'il avait constitué avec 2 amis, l'un marchand de charbon et l'autre boulanger. Le marchand de charbon disait les paroles et le boulanger mettait de la musique et mon frère chantait. Et j'ai été bercé par ces chants toute mon enfance et je garde à leur audition une émotion tellement immense que je peux à peine parler quand j'entends ça. Et puis, on a entendu ma mère chanter Bar Yochai en judéo-libyen après que mon frère eut entamé le fait en hébreu. Et ça, c'était un soir de Pessah, quoi, c'est-à-dire comme on a entendu le Hadgadia. Et c'était donc après le Seder, ça durait très longtemps. Et évidemment, Quand vous reprenez les faits sur le fait que j'ai pu entendre ces contes de ces livres lus par ma mère, c'est une histoire extraordinaire puisque nous avons été, quand nous sommes arrivés en Algérie, nous étions 8, on nous a alloué une cave de 20 mètres carrés dans laquelle nous sommes restés 6 ans, d'accord, et qui nous servait de tout, de chambre, de salle à manger, etc., etc. Nous n'avions, objectivement parlant, les conditions étaient absolument horribles, mais subjectivement parlant, j'estime avoir passé une enfance de rêve pour une raison simple, c'est que j'étais très entouré, qu'il y avait une formidable cohésion et que ma mère, tous les soirs, nous réunissait et nous avions tous accès à son corps. Elle nous a donc raconté ses livres, ses livres en question. Quand beaucoup plus tard, je lui ai demandé d'où elle avait su que ces histoires, elle m'avait raconté que c'était mon père qui lui les lisait au lit. Et je me disais, c'est formidable cet homme-là, il avait la capacité de traduire de l'italien en judéo-arabe directement, traduction simultanée. Oui, et j'ai pensé que mon père lisait l'italien, c'est tout. Et puis, presque 60 ans plus tard, je rencontre Lucette Valency et j'apprends que son arrière-grand-père avait traduit en judéo-arabe, qui est très, le judéo-libyen, il l'entend, ben, ces trois livres-là. C'est-à-dire que mon père lisait directement ces choses-là. Moi, j'aime beaucoup cette histoire pour une raison simple, c'est que ce qu'elle nous explique, c'est que si je l'écris avec autant d'intensité, autant d'insistance, c'est pour dire c'est merveilleux la vie, parce que on a du temps qui passe, les jours se succèdent, etc., etc. Et puis de temps en temps, on a un cadeau magnifique comme celui-là, c'est-à-dire qu'enfin un mystère se lève. Et ces mystères qui se lèvent, j'en ai collecté énormément dans mon existence. Et puis j'ai passé mon temps à précisément à la fois cultiver le mystère et tenter de le lever. Et je dis que par exemple, ce qui m'a profondément intéressé dans ma carrière de médecin et de pédiatre, c'est de ne pas m'être contenté d'être le pédiatre qu'on m'avait appris à être, qui restait à la surface du mystère, mais d'avoir collecté quantité d'informations et de sciences humaines pour pouvoir aller au-delà de cela et donc résoudre le mystère toujours de la façon la plus aiguë, aller jusqu'au cœur même des choses. Et je pense que c'est précisément cette enfance qui était entièrement baignée dans ce mystère angoissant dont j'espérais pouvoir éventuellement résoudre ce qu'il en était, qui m'a amené à être le praticien que j'ai été et qui a décrit sa pratique dans tous ses livres.
Alors pour revenir juste un instant sur votre maman qui chante le Bar Yochai,
oui.
C'est très intéressant parce que quand on a parlé des aphorismes, vous avez dit que les femmes n'avaient pas accès au langage, mais là aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une seule femme qui sache chanter le Bar Yochai. c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, elle a pris sur elle la possibilité d'une transmission extrêmement forte.
Tout à fait. Tout à fait. Mais là, encore une fois, il y aurait beaucoup à dire sur précisément ce qu'il en est de ce qui a affecté le discours féminin et qui, à mon sens, l'a beaucoup appauvri.
Vous dites dans l'une des pages de votre livre à quel point la question de la traduction a été centrale pour votre œuvre de pédiatre et de la transmission de la manière de comprendre les enfants, les parents et les relations humaines en général.
C'est ça. C'est-à-dire que c'est à partir de ce passage de langue, je veux dire que, pardonnez-moi de vous froisser, mais je dirais que face au maître que vous avez été pour moi, j'ai dégusté votre enseignement avec un plaisir que vous n'imaginez pas, dans la mesure où justement, vous-même, vous animez quelque chose qui s'appelle Targoum, c'est pas par hasard non plus que vous êtes dans cet effet-là. Et c'est pas par hasard non plus que vous enseignez comme ça à tout le monde, combien il est important de prendre chaque mot et de voir ce qu'il peut en être. Et ça m'a enchanté de découvrir que, précisément, cet exercice que vous nous aviez enseigné, à savoir qu'un mot trilitaire a son sens et le sens de ses anagrammes, ça nous donne quand même quelque chose que j'ai écrit avant même de le savoir authentiquement, à savoir que j'ai en 82 écrit dans un livre qu'un bébé c'était un réparateur qui potentiellement séparateur, et que je tombe sur Tinouk, Tikkun et Nitok. Et voilà trois lettres qui disent la même chose en hébreu.
Expliquez, parce que je pense pas que les auditeurs comprennent exactement les termes que vous utilisez.
Un bébé, ça se dit Tinok, T-N-K. La réparation, ça se dit Tikkun, T-K-N. Vous voyez, c'est une inversion, c'est un anagramme. et la séparation se dit Nitok NTK. J'avais écrit ces potentialités du bébé avant même de savoir que l'hébreu l'avait mis carrément dans le terme de bébé. Et ça, vous voyez, pour moi, c'était un enchantement. D'accord? Et on découvre, si bien que c'est là où précisément l'homme non observant, totalement athée que je suis, matérialiste devenu, etc., etc., est quand même très profondément attaché à cette...
À la tradition par la langue. À la traduction par la langue.
Et à ces éléments-là. Alors ces exploitations-là. C'est-à-dire la façon de prêter aux mots l'importance qu'ils méritent.
Alors justement, je viens d'évoquer la pédiatrie, votre travail de médecin, je dirais de médecin conteur. En quoi la médecine a-t-elle été pour vous, en quoi la médecine a-t-elle pour vous un lien avec le conte? Les histoires, je pense à cette phrase de Rabbi Nachman de Bratslav, qui dit au chapitre 60 de ses Likutei Moharan, je vais vous raconter des histoires et vous allez guérir, Aldo Nahori.
Mais vous n'imaginez pas jusqu'à quel point c'est vrai. Pour une raison simple, c'est que précisément, très souvent, on est préoccupé par ce qui est à la surface et qui s'appelle le symptôme. Et combien de fois m'est-il arrivé d'écouter patiemment quelqu'un me raconter tous ses malheurs? Et vraiment, mais avec beaucoup de sympathie, je l'écoutais. Et puis une fois qu'il s'était arrêté, je lui disais, je vais vous raconter une histoire. Je lui racontais son histoire, mais telle que je l'avais moi entendue. Et non pas tel qu'il l'a raconté. Et ça change tout. Pour une raison simple, c'est que nous perdons de vue ce qu'il en est des éléments formidablement actifs dans notre existence et de cet agencement qu'il ait fait si actif que cela. C'est-à-dire que nous perdons notre temps à regarder des détails sans voir ce qu'il en est de ce que on appelle le fil rouge. Et ce fil rouge, lui, jamais ne trompe. Et raconter une histoire, c'est toujours raconter ce qu'il en est de la dynamique de vie. Et c'est pour cela aussi que, aussi bien quand je rapporte les cas dans mes ouvrages où je raconte comment les choses se passent, etc., etc., je fais quoi? Je montre comment les relations s'instaurent et comment éventuellement elles se mettent en place. C'est-à-dire que je dis bien quelque chose qui est, justement, toujours dans cet aphorisme, deux s'entendent, l'un supporte beaucoup, c'est-à-dire que il y a toujours du transactionnel. Il y a toujours quelque chose qui fait que on ne peut, avec l'autre, établir un commerce que dans la mesure où nous sentons que nous avons besoin de lui autant qu'il a besoin de nous. C'est-à-dire que nous sommes l'un et l'autre dans notre névrose, ayant refoulé beaucoup, si bien que comme nous avons refoulé, nous pensons que l'autre a des droits autant que les nôtres, que lui aussi a refoulé. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est difficile à entendre, pour une raison simple, c'est que l'individualisme de nos sociétés a fait que chacun tire la couverture à lui, sans prendre en considération les autres. Et le malheur de nos sociétés est là.
Alors, la traduction est peut-être aussi au cœur de cette attention à l'autre, parce qu'il faut trouver la langue qu'il puisse entendre. Je pense à une réflexion de Rabbi Nachman de Bratslav encore, qui n'est pas sans lien avec la traduction, parce qu'il disait qu'il avait insisté sur les contes qu'il racontait pour qu'ils soient publiés bilingues, hébreu en haut de la page et yiddish en bas de la page, Aldo Nahori.
Ben oui, ça laisse pensif, parce que de toutes les façons, je ne suis pas certain que ce qui se dégage du texte hébreu soit le même que ce qui se dégage du texte yiddish, dans la mesure où précisément ce sont deux moyens de coder, et nous codons, mais à partir du moment où nous codons, que ce soit dans une langue ou dans l'autre, nous sommes dans le registre du symbolique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se donne à entendre et à comprendre, et sur lequel, dont nous allons avoir un profond retentissement. C'est-à-dire que, là encore une fois, c'est la sollicitation des émotions enfouies qui est en jeu. Et que ce soit d'ailleurs, dans cette langue ou dans une autre, se contenter d'une simple traduction, souvent c'est à plat. Je me souviens d'une fois où j'avais réagi à l'écoute d'une chanson arabe en hurlant « C'est tellement beau !» Et on m'a demandé de traduire. Je dis non, en français, ça n'a mais vraiment rien à voir. C'est d'une platitude effroyable. Pourquoi? Parce que C'est codé, là, encore une fois. Et cette histoire de code, c'est amusant parce que il y a eu une suite à cette histoire. Je veux dire qu'à un moment, des circonstances se sont prêtées pour que j'eusse pu éventuellement dire « voilà ce que ça se disait ». Mais pourquoi ? Parce que les circonstances avaient changé. Et c'est ça, c'est toujours cela. Et c'est toujours cela, c'est toujours extrêmement difficile d'apporter une traduction qui donne bien la force qu'il y a dans la langue originelle. Je pense simplement, en écoutant mon frère tout à l'heure, il chantait une chanson qui disait « Dardra ya khalqi sofiha ». Et je me dis, comment je traduirais ça en français ? Et je dirais, bon, tout est trouble, ou mon créateur filtre ça. C'est nul. Mais en même temps, je peux dire, si je dois le dire en français, je peux dire c'est ça, mais c'est aussi, j'y vois plus rien. Ô mon créateur, fais décanter tout cela. Décanter et filtrer est dans le même mot arabe. Mais il faut que je choisisse en français. Je ne peux pas. Alors je garde le chant dans la langue originelle, vous voyez ? Et ça, ça fait partie de toutes les difficultés de traduction, et les traducteurs sont toujours confrontés à ce problème-là.
Alona Ori, quelle est la saveur particulière du conte de Monte Cristo en judéo-libyen que vous n'aurez pas retrouvé en français, en dehors que c'est le corps de votre mère qui l'accompagne aussi ?
Non, je ne crois pas que j'ai gardé du conte de Monte Cristo en judéo-libyen un souvenir aussi fort que cela. La lecture en français a tout emporté. Je veux dire que l'adhésion que j'ai faite à la lecture en français m'a fait oublier tout ce que j'ai pu entendre de ce côté-là.
Merci Aldo Naouri pour cette première conversation absolument passionnante où nous avons été fidèles à votre méthodologie de tisser le théorique et le pratique, le personnel et l'universel, qui nous fait mieux comprendre à la fois l'épaisseur de votre parcours, mais qui nous dévoile aussi tout un monde et une période de l'histoire d'une richesse inouïe, un témoignage fort au service de la mémoire. Je pense que les auditeurs, tout comme moi, ont hâte de connaître la suite de ces aventures que nous découvrirons la semaine prochaine. Entre-temps, je renvoie à votre livre, dont je rappelle le titre, « Des bouts d'existence », paru chez Odile Jacob, un magnifique récit qui se lit d'une traite, de bout en bout, oserais-je dire, un livre qui rend heureux. Merci encore Aldo Naouri.
Merci à vous. Merci.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Pierre Monteil, à la réalisation, comme d'habitude et toute printanière, Dany Journeau, Kol Touv, Leïtraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.